merci de nous écouter et il est temps de retrouver l'émission de Serge Tizi, Géopolitique et Histoire des Humains.
Take a little walk to the edge of town and go across the tracks, where the viaduct looms like a bird of doom as it shifts and cracks. Where secrets lie in the border fires and the humming wires, hey man, you know you're never coming back.
Bonjour Serge.
Bonjour James, bonjour chers auditeurs, chères auditrices.
Alors qu'est-ce qu'il y a au programme aujourd'hui ?
Aujourd'hui je vais vous parler de la géopolitique des populismes dans la globalisation. Donc depuis la chute du mur de Berlin en 1989 et puis la fin de l'Union soviétique, donc de la guerre froide en 1992, nous avons assisté à deux périodes. Une première période qui allait jusqu'en 2005 à peu près et qui était en fait la victoire du camp démocratique, du camp libéral économique sur les dictatures. On allait voir donc un monde meilleur. Et puis à ce sujet d'ailleurs, on avait donc la victoire. Victoire sur Pinochet au Chili, on avait la libération de Mandela, il était président de l'Afrique du Sud, donc on avait les accords d'Oslo, il y avait Benazir Bhutto au Pakistan, on avait Eltsine en Russie, on avait Václav Havel en Tchécoslovaquie, bref, le monde pensait être un monde meilleur, et on allait résoudre tous les problèmes du monde dans une mondialisation qui, elle, semblait être vouée à apporter le bonheur à l'ensemble de l'humanité, un peu comme en 1945, l'armée américaine a apporté le bonheur aux Français en leur amenant le Coca-Cola, les cigarettes, le jazz et le swing. Bref, la globalisation unifiait l'humanité. 30 ans plus tard, aujourd'hui, nous assistons, et ce depuis à peu près 10 ans, à une remise en question de cette démocratie libérale, mais aussi de tous les corps intermédiaires et quel que soit le continent sur lequel on se trouve. Certains politiques parlent même de démocrature quand ils qualifient les démocraties libérales. C'est donc une vague populiste mondiale.
Qu'est-ce que le populisme, Serge ?
Il est difficile de définir le populisme, car il y a différentes formes de populisme. De façon très générale, il y a un populisme de gauche et un populisme de droite. Alors, le populisme de gauche, il est plutôt internationaliste, il est social, il puise son origine dans les mouvements socialistes russes du 19e siècle, et puis aussi ce qui s'est passé en Amérique latine à partir des années 30-40, avec notamment le péronisme en Argentine. Il est aussi de droite, alors là il est beaucoup plus nationaliste, xénophobe, raciste même, guerrier, sécuritaire, libéral. Mais ces deux se rejoignent sur certaines positions, alors notamment sur la position de la souveraineté de la nation. Il n'y aurait que la nation donc qui serait capable de lutter contre en ce moment une mondialisation, on va dire. Et ensuite, il y a aussi une critique des élites. Donc, qui serait naturellement toute corrompue, élite. Quand on parle d'élite, on parle de partis traditionnels, de syndicats corrompus, de médias corrompus, de professions intellectuelles comme les professeurs qui n'auraient plus de voix au chapitre. Ils sont les représentants et donc ils se disent eux représentants exclusifs d'un peuple mythifié, on va dire, identifié, uni, soi-disant uni au-delà de tout avec des drapeaux. Vous pouvez avoir Stars and Stripes, vous pouvez avoir aussi le drapeau tricolore, vous avez les drapeaux allemands qui ressurgissent, avec quand même une vision de l'histoire un peu aussi mythifiée. C'est ce qu'on voit au Puy du Fou. C'est ce que nous a proposé à un moment donné Marion Maréchal Le Pen quand elle se présentait ici dans le Vaucluse en disant on n'a qu'à faire en Provence un Puy du Fou, comme si ça allait nous apporter de l'emploi pour tous. Donc il y a un culte du chef, homme ou femme, peu importe, qui ne peut être critiqué ni accusé de détournement ou de procédure judiciaire. sans que soit invoqué un complot. Il y a un rejet aussi chez les populistes du clivage droite-gauche ou du même du terme de parti. Donc dans un parti, normalement, on a des oppositions internes, il y a des clivages, il y a des choses de ce type. On a même des congrès où des fois ça se passe mal. Donc le chef, lui, il est obligé de faire la somme de tout ça et de mettre un peu d'ordre dans la maison. Et ben là, dans ces mouvements-là, puisqu'il n'y a plus de parti, eh bien dans ces mouvements, il n'y a plus qu'un chef avec un premier cercle qui définit franchement non pas la doctrine, parce que tous ces partis-là rejettent un peu la doctrine, mais des stratégies, on dirait, de marketing politique, c'est-à-dire quelles sont les choses qui peuvent plaire ou déplaire à l'électorat. Alors j'aurais un exemple à donner, par exemple, hein, le Front National a essayé de changer de nom, hein, il s'intitule maintenant Rassemblement National, histoire de rompre apparemment avec le père fondateur, mais en fait, là aussi, on a encore une autre vision des choses, c'est-à-dire que pendant très longtemps, il a été contre l'euro, et puis tout d'un coup, il dit, oh, maintenant, comme la population est quand même pour l'euro, hein, il voit bien ce qui se produit dans les pays qui n'en ont pas, ben on peut composer avec l'euro, bon, pourquoi pas, hein. Dans une certaine mesure, le problème d'un populisme, c'est que c'est un peu un attrape-tout. On est prêt à tout pour accéder au pouvoir. Donc ça donne des avis divergents, voire convergents, anti-immigration, nationaliste, localiste, même dirigiste, libéral économique. Voilà, on a un peu un patchwork de tout ce qui peut se faire au niveau politique. Alors d'un point de vue intellectuel ou universitaire, on distingue en fait quatre formes de populisme. Le césaro-bonapartisme, hein, issu de Napoléon, notamment III. Donc, alors là, c'est l'homme fort. Hein, il a surtout été glorifié dans les pays du Sud. Alors, l'Amérique latine était à un moment donné le grand continent où on avait ce type de populisme avec Perón. On l'a maintenant avec Maduro, hein, dans l'aile gauche, on va dire. Et puis, vous l'avez aussi dans les pays du Sud, hein, comme Ben Ali en Tunisie, avant la révolution de Jasmin. Al-Sisi aujourd'hui ou Poutine en Russie, ça c'est donc un césaro-bonapartisme. Après vous avez un populisme réactionnaire. Alors lui, il est plus contre les progrès sociaux, l'establishment, comme on dit, voire l'immigration. Lui, il est caractérisé par Jean-Marie Le Pen, Orban, Trump, Marine Le Pen. Là, on a un populisme très réactionnaire. Le populisme des politiciens aussi, hein, puisque c'est un populisme un peu moderne, on va dire, hein, plus visible, plus acceptable. Lui, c'est en fait, il veut surmonter les clivages traditionnels. Comme s'il n'y avait plus de clivage droite-gauche. Alors là, on en retrouve Mélenchon hein, dans sa dernière campagne des présidentielles, mais on retrouve aussi Emmanuel Macron avec un culte de la personne aussi. Hein, EM, c'est pas rien. Tous derrière le chef, plus de division. On veut pas de ce qu'on a connu au Parti Socialiste avant, c'est-à-dire des frondeurs. Donc tout le monde au garde à vous et on vote comme le chef a dit. Donc démocratie, on a aussi démocratie populiste, c'est-à-dire on a des régimes qui ont opté plutôt pour ce type de gouvernement. Avec donc le référendum comme clé de voûte, c'est-à-dire, et là on prend le cas de la Suisse, parce que c'est celui qui est souvent pris en exemple. Bon, la Suisse, je rappelle quand même que c'est un pays très divisé linguistiquement, très uni aussi d'un point de vue culturel. On est quand même avec un État fédéral, faut quand même pas exagérer, il y a quand même un État, il y a quand même des représentants, vous avez des élus dans les communes, vous avez des élus dans les cantons, vous avez des élus au niveau fédéral, donc ça n'empêche pas l'élu. Seulement, ce pays fonctionne avec un référendum. Alors on dit souvent, bah oui, mais nous on n'a qu'à faire pareil. Alors, notamment, c'était l'une des grandes revendications des Gilets jaunes, c'est le RIC, le référendum d'initiative citoyenne, que certains partis ont pris comme RIP, RIP, c'est bizarre, hein, rest in peace, c'est pas terrible comme type de formule, mais enfin, RIP ou RIC, peu importe, c'est un référendum. Et donc, la question, c'est pourquoi ce référendum? Ben, toujours cette méfiance vis-à-vis des élites ou vis-à-vis des élus représentatifs, on veut avoir notre voix. Alors, Ça pose problème, parce que ça pose problème, parce que même en Suisse, tous les citoyens suisses ou helvétiques, hein, pour les nommer comme ils se nomment, ne votent pas. Vous avez 40% de la population qui vote. Ça veut dire qu'en fait, quand vous prenez une décision, vous la prenez seulement avec 40% des votants. Même en cas de gros défis. Hein. Donc on peut avoir un vote sur les minarets, on peut avoir un vote sur les plantes qu'on plante dans un jardin. Enfin bon, bref, on peut avoir à peu près tout ce qu'on veut. On peut même avoir un vote de référendum sur le droit de vote des femmes. Bon. Voilà. En ce moment, vous avez des manifestations féministes en Suisse. Hein. Il faut se poser des questions. Donc, le problème, c'est qui écrit la question. Alors, on a, nous, en France, une grande tradition référendaire qui a été la clé de voûte du régime bonapartiste, que ce soit le premier ou le second ou le troisième, Napoléon Ier ou Napoléon III. Et ces régimes sont des régimes autoritaires, c'est-à-dire que celui qui a écrit la question, c'est le prince. Donc, le prince écrit la question. Donc, lui, il se pose la question et puis il dit « Faites attention, si vous votez pas pour moi... si vous votez pas pour ça, c'est le chaos. » Donc en fait, il se met dans la balance, soit je pars, soit je pars pas. Chose qu'a faite aussi le général de Gaulle, notamment en 69, quand il a proposé la régionalisation et l'abandon du Sénat. Qu'est-ce qu'ont fait les Français? Bah, ils ont dit, bah tiens, il y a le vieux, là, on venait juste de sortir de 68, il y a le vieux qu'on ne supporte plus. Alors on l'aime bien, l'homme du 18 juin, d'accord, ok. Mais bon, on le supporte plus, et qu'est-ce qu'on fait? Bon, on vote contre. Même si on est pour la décentralisation et l'abandon du Sénat, bah voilà, les Français ont voté contre en 69. Donc ça pose le problème du référendum. Un référendum qui peut soit se transformer en plébiscite pour un homme politique ou un parti, et puis surtout, quelle est la limite au référendum? Est-ce qu'un référendum, est-ce qu'on va revenir sur l'abolition de la peine de mort? Est-ce qu'on va revenir sur des principes de droit et des principes de droit de l'homme, sous prétexte que le peuple aurait toujours raison? Le peuple n'est pas véritablement toujours clairvoyant. Il faut lui faire confiance, certes, mais confiance en tout, je rappelle que la liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres. Donc ma liberté d'organiser un RIC s'arrêterait là où l'autre ne voudrait pas du RIC. Donc c'est toujours un problème, c'est qu'est-ce que ça veut dire être une nation ? Une nation, c'est pas une communauté. Une nation, c'est quelque chose qui est composite, c'est quelque chose qui est multiple, c'est avec une multiplicité d'avis qui sur le moment peuvent se rejoindre, mais deux jours plus tard peuvent être complètement différentes parce que les gens évoluent, parce que la politique évolue, parce que les choses. S'il y a 40 ans, on nous avait dit que le climat serait un enjeu pour nous, on n'aurait jamais cru ça il y a 40 ans. C'était pas du tout dans l'état d'esprit des gens. On n'était pas du tout dans cette question-là. Voilà. Et je rappelle aussi que, d'un point de vue politique, s'il y a des représentants, c'est parce que, normalement, le citoyen fait autre chose. Alors, l'autre référent que prennent les partisans du référendum, c'est Athènes. Alors, je rappelle juste une chose, hein, c'est que la démocratie athénienne, c'est très beau sur le papier, mais un, il n'y avait que les hommes qui votaient, et deux, si les hommes pouvaient voter, c'est que derrière, il y avait des esclaves pour faire leur travail. Alors, soit on veut le retour de l'esclavage et le fait que les femmes ne vote pas pour pouvoir s'occuper de la maison, ce qui est aussi dans une certaine doctrine. Hein. Je rappelle ce que propose par exemple un parti populiste espagnol comme Vox, qui est allié de Marine Le Pen au Parlement européen. Il veut la femme à la maison. Hein. Donc soyons bien clairs sur ce qui se passe en ce moment. Donc voici les quatre formes de populisme que nous pouvons avoir et nous allons faire une petite pause avec Bernard Lavilliers.
Je vois des grandes Tchernobyl en puissance, je vois des animaux clonés, des millions de tonnes de pétrole en souffrance, sur des super tankers rouillés. Tout en régressant, on se dit qu'on avance, on accélère, on tourne en rond. Les super productions font la tendance, mais c'est toujours la même chanson. Cassé de l'Est, stressé de l'Ouest, rusé du Nord, usé du sud, vers quelle certitude, vers quelle latitude, vers quelle lassitude, vers quelle certitude, allez-vous? Je vois l'énorme appétit de matière cette montagne de déchets. Des sous-marins coulés, mais nucléaires, ça fait toujours un drôle d'effet. Qui va manger le gâteau d'anniversaire? Pas celui qui paye l'addition. S'il reste des miettes pour l'œuvre humanitaire, ce sera toujours la même chanson. Cassé de l'Est, stressé de l'Ouest, rusé du Nord, usé du Sud. Vers quelle certitude, vers quelle latitude, vers quelle lassitude, vers quelle certitude allez-vous? Je vois des guerres tribales comme des cancers qui rongent des pays déchirés. La propagande aveugle, totalitaire et l'addition qu'on va payer. Je vois des océans couleur d'encre, je vois des poissons irradiés. Je vois des canicules hallucinantes, toutes ces villes inondées. Que la nature a su, les animaux s'en sortent. Que le point de rupture ne soit pas l'être mort. Après nous le déluge, bombardé de neutrons. L'univers qui nous juge nous donne le frisson. Cassé de l'Est, stressé de l'Ouest, rusé du Nord, rusé du Sud. Vers quelle certitude, vers quelle latitude, vers quelle lassitude, vers quelle certitude allez-vous? Cassé de l'Est, stressé de l'Ouest, rusé du Nord, usé du Sud. Vers quelle certitude, vers quelle latitude, vers quelle lassitude, vers quelle certitude allez-vous?
Alors Serge, y a-t-il une internationale populiste ?
Alors, cher James, est-ce qu'il y a une internationale populiste ? Bon, il y a une distinction très nette à faire entre les Nord et les Sud. Bien que à travers Internet, on ait l'impression parfois qu'il y a une communauté d'esprit, et puis parfois avec certains voyages, notamment de conseillers de Trump en France, pour et en Europe, pour guider un peu d'un point de vue médiatique et politique, technique, on va dire les partis d'extrême droite en Europe. Alors, si on parle par exemple de l'Europe, ben on a un clivage très net entre les populismes d'Europe du Nord, qui sont généralement plus xénophobes, anti-migrants, voire anti-francophones, si on prend le Flambloc dans les pays flamands de nos voisins belges, ou avec la Ligue du Nord, avec pour l'Italie, Ligue du Nord qui quand même avait une spécificité jusqu'à il y a pas si longtemps, c'était de considérer les Italiens du Sud comme quasiment des Nord-Africains. L'Europe du Sud donc qui est plutôt elle qui penche vers un populisme plus à gauche, plus social, avec Podemos, Mouvement des 5 étoiles, Syriza. Au Sud, on peut aussi trouver des mouvements espagnols alliés au FN et au RN, comme par exemple Vox, donc clairement franquiste et machiste. Et à l'Est, ben, nous avons en fait une distinction aussi à faire entre les pays comme la Pologne, la Hongrie, la Tchéquie, la Slovaquie, qui étaient tous réactionnaires, puisque dernièrement, il y a des élections en Tchécoslovaquie qui ont donné la majorité à une plutôt libérale. Tout en étant libéraux d'un point de vue économique, je rappelle quand même que la Pologne, la Hongrie ont voté des lois limitant l'avortement, la contraception, limitant aussi l'indépendance de la justice, et puis fermant leurs portes à toute émigration. Au niveau mondial, on distingue aussi les pays. Il faut distinguer aussi les pays riches du Nord et les pays du Sud, qu'ils soient émergents, pays mal avancés ou pays en voie de développement. Alors au Nord, on assiste à un paradoxe, c'est-à-dire, je rappelle, les pays du Nord, c'est, bon, en géographie, on les appelle grosso modo les pays de la triade. Donc, ce sont les pays qui ont 20% de la population mondiale et qui concentrent en eux-mêmes 60% de la richesse mondiale. C'est pas rien. Donc, ce sont les pays qui dominent la mondialisation, qui se trouvent en ce moment et qui se tournent en ce moment vers des gouvernements populistes. Alors, on a par exemple Trump aux États-Unis. Je vais pas revenir dessus. Je vous renvoie à l'émission précédente, mais on a aussi Shinzo Abe au Japon qui est passé du libéralisme à quelque chose qui se retrouve à être un libéralisme nationaliste en profitant de crises régulières avec notamment son voisin chinois. Alors quel est le but de ces populistes du Nord ? Restaurer la puissance. Alors restaurer la puissance, c'est par exemple celle de Trump par rapport à la Chine. C'est aussi celle de Poutine par rapport aux États-Unis, c'est aussi celle de Marine Le Pen qui voudrait restaurer une soi-disant puissance française, comme si on avait dégringolé à ce point, nous la 5e, 6e puissance du monde avec 0,9% de la population mondiale. Donc c'est toujours en fait le même registre, avec notamment cette peur de l'invasion migratoire, ce grand remplacement, ces problèmes, notamment pour les pays du Nord européens et nord-américains, ce problème, par exemple pour les Américains, des chicanos, mais aussi de l'islam, qui semblerait incompatible avec les valeurs occidentales, les droits de l'homme. Ah bon, donc on peut quand même se poser des questions. Quant au Sud, les populistes sont différents. Alors, je rappelle, ce sont des pays qui étaient en voie de développement et qui deviennent émergents, c'est-à-dire qu'il y a toujours une catégorie de leur population qui ne vit pas la mondialisation comme nous, et une petite partie de la population qui la vit comme nous. C'est-à-dire que c'est là qu'on se leurre. Quand on voit une pub Nokia avec Are You Ready, qui parle en anglais, qui nous montre un Asiatique, un Africain, et deux ensuite, avoir un téléphone portable et se parler et communiquer, oui, il y a des gens qui sont dans la mondialisation, et puis il y en a d'autres qui le sont pas. Donc Erdogan, par exemple, si je prends la Turquie, lui, il est devenu populiste. Lui aussi, il est passé du camp libéral à populiste. Lui, c'est pourquoi il voulait absolument reprendre une influence sur l'Asie, en Afrique, en Europe et sur le Maghreb. Je rappelle qu'il subventionne des groupes très islamistes en Libye. Et qu'il a subventionné aussi des groupes très islamistes en Syrie, tout en pourchassant les Kurdes, parce que les Kurdes étaient un peu trop communistes. Donc, vous avez Bolsonaro, par exemple, au Brésil, qui est passé grâce à cause de l'emprisonnement de Lula pour corruption. Jugé, lui, comme pour corruption, par un juge qui vient, lui aussi, d'être traduit pour corruption. Donc, c'est assez marrant. Quand je dis marrant, c'est pathétique, en fait. Maduro. Alors, Maduro, lui aussi, c'est pareil, il se réfère au chavisme, il se réfère même à l'ancêtre de la Colombie, au fondateur du Venezuela, pardonnez-moi, et lui il reçoit le soutien de Poutine, il reçoit le soutien de Mélenchon, il reçoit en disant « Ah, mais moi je suis une victime !» Écoutez, essayez de dire ça aux 2 millions de Vénézuéliens qui ont fui leur pays parce qu'ils meurent de faim. Alors je veux bien, moi, que l'autre il soit pas mieux, parce que celui qui a été choisi par les Français et les Occidentaux, franchement, dans le style probité, on a vu quelque chose d'autre. Mais enfin, Maduro, c'est quand même pas un saint. Et quant à Moby, lui, c'est le moine hindouiste. Donc, lui, il fait partie du BJP. Alors, quand on nous dit que l'Inde est un pays laïque, oui, c'est vrai, il est laïque, mais il est laïque parce que le parti du Congrès, celui de Nehru et de Gandhi, ont bien dit que toutes les communautés devaient pouvoir vivre ensemble. Moby, il est déjà un peu moins pour ça. Je rappelle que son parti a détruit des temples, des mosquées musulmanes pour y reconstruire des temples hindouistes, que franchement, être musulman en ce moment, et se présenter à une élection, c'est pas si évident que ça dans l'Inde de Moby. Mais lui, il est passé pourquoi ? Parce que le Congrès était tellement corrompu que les Indiens en avaient assez. Et donc, ils ont pris le premier qui leur a dit « Moi, je vais vous sauver de là ». D'autant plus qu'il y a un rapport entre l'Inde et la Chine qui n'est pas véritablement dans le style pacifique et d'un point de vue économique, certainement pas. Donc, il n'y a pas d'international populiste. puisque par essence, le populiste est nationaliste. Comme la Chine de Mao Tse-tung et sa révolution culturelle le furent. Alors ça a plu à quelques étudiants français de 1968 que des jeunes pouvaient persécuter des vieux et des professeurs, mais il n'empêche que c'était quand même une mainmise assez cruelle sur la population et sur le parti communiste chinois qui ont fait que cette révolution culturelle a fait de Mao Tse-tung un populiste. Donc, n'oublions pas quand même que Maduro est qu'un pion de Poutine contre Trump, que Mobile est pour Trump par rapport à l'actuel Xi Jinping, que Marine Le Pen ou sa nièce ne sont pour Trump et Poutine comme Mélenchon contre l'Europe, donc ça empêche en fait toute constitution de l'Europe. Et quant à Macron, Macron et à son mouvement En Marche, il faudrait qu'ils fassent très attention parce qu'ils ont aussi des tendances populistes avec « nous on sait tout et les autres ne savent rien » ou « depuis 30 ans il ne s'est rien passé », comme si la France n'avait pas vécu des choses belles depuis 30 ans. Je suis désolé, la crise actuelle n'est pas due aux 30 ans que nous venons de vivre. Elle est due à quelque chose de bien plus sévère qui est la crise bancaire de 2008. C'est pas venu comme ça. Et les citoyens ou les hommes politiques ne sont pas obligatoirement responsables. Quant à Duarte aux Philippines, parlons de celui-là aussi, parce que lui, il est contre Trump, il est contre Xi Jinping, et puis d'un coup, il se dit « Ah bah tiens, non, je vais me rapprocher de Xi Jinping. » Je rappelle que c'est le président actuel des Philippines. Alors lui, il a fait son beurre, on va dire, hein. Son accession au pouvoir, il n'a droit qu'à une seule chose, c'est le fait qu'en tant que maire, il ait envoyé des escadrons de la mort buter, il n'y a pas d'autre mot, tous les narcotrafiquants qu'il y avait dans sa ville. Et donc, il a dit, vu ce que j'ai fait comme ménage dans ma ville, je vais faire le ménage dans tout le pays. Donc, et la première année de sa prise de fonction en tant que président des Philippines, vous avez 12 000 personnes qui ont été butées en Philippines. Est-ce qu'il a résolu le problème économique de son pays? Absolument pas. Est-ce qu'il a résolu les problèmes de ces immigrants qui travaillent comme des esclaves dans les pays arabes? Absolument pas. Et je parlerai aussi donc de ce type de populisme. Et de ces alliances, est-ce qu'il y a des alliances? Il peut y avoir des alliances de circonstances. C'est-à-dire, là, vous avez bien une alliance entre Trump et l'Arabie Saoudite. La France aussi, d'ailleurs. Oui, excusez-moi. Donc, vous avez aussi des alliances un peu bizarres, ou peut-être moins bizarres que ça, qui payent, qui soutient. Donc, la chose à savoir quand même, même s'il y a un populisme de gauche et un populisme de droite, c'est qu'à 90%, le populisme et de droite. Et il rejette comme jamais toute idée socialiste.
Alors, dans ce décor que tu nous plantes sévère et qui nous fait prendre conscience des choses, quelles sont les causes de cette poussée populiste ?
Alors, à chaque fois que les historiens s'accordent, quand on parle de populisme, à dire qu'en fait, ça date grosso modo du 19e siècle. Alors, bien sûr, on pourrait trouver des populismes dans la Grèce antique, on pouvait trouver ce type de caractéristiques dans n'importe quelle période de l'histoire de l'humanité. Et dans n'importe quelle civilisation aussi. Seulement, si on prend, par exemple, le populisme moderne, celui contre une élite, celui que j'ai décrit précédemment, on assiste, en France, par exemple, si je prends notre pays, à 4 poussées populiste. Et à chaque fois, c'est par rapport à une nouvelle situation donnée. C'est-à-dire qu'on est dans un basculement en fait de société. La première bascule en fait, c'est qui s'est produite chez nous, c'est le boulangisme, c'est-à-dire les débuts de la Troisième République, et nous étions en pleine révolution industrielle. La société rurale était déjà en train de basculer vers une société industrielle. On avait en plus une aristocratie qui perdait sa place prédominante par rapport à une autre bourgeoisie qui elle lui prenait vaillamment sa place. Donc on a une urbanisation qui s'était mis en place à peu près sur tout le territoire, et ça fait un problème de crise, d'autant plus que y avait des scandales politiques, des scandales financiers, qui ont poussé un certain nombre de Français à se dire, tiens, il y a un général qui est très bien, le général Boulanger, et on doit la survie de la République à son entêtement, on va dire. Là encore, on a eu du bol. C'est à ce moment-là un populisme que l'on retrouve en Russie, chez les socialistes révolutionnaires. C'est un populisme qu'on retrouve aussi aux États-Unis, dans les American Farmers, c'est-à-dire des gens qui se disaient, mais enfin, la Terre, vous savez, c'est comme à Vichy, ça ne ment pas. Le retour à la Terre, le retour à la nature, contre cette industrie et cette ville qui sont autant de Sodome et Gomorre. Bref, on était dans cette condition-là. La deuxième vague, en fait, c'est après 14-18. Après 14-18, on a une période qu'on a appelée les années folles, donc très bien chez nous en France, mais des années folles qui se sont traduites par une crise en 1929, et une crise qui s'est doublée par quelque chose qui était inattendu, c'est la crise de Stavisky, c'est-à-dire cette espèce de banquier véreux qui, soutenu par des hommes politiques, a détourné des fonds et est devenu un homme très influent de sa période. Et ça, dans une population qui venait de vivre 14-18, qui avait vécu, qui était en train de vivre en pleine crise économique, ça fait comme une explosion qui s'est traduite par les manifestations du 6 février 1934, où on ne voit pas seulement l'extrême droite, mais aussi le Parti communiste s'allier dans des manifestations anti-parlementaires. Ben pourquoi ? Ben parce que les parlementaires ont été pris, certains parlementaires ont été pris les mains dans le sac, et quand on est face à une population qui a faim, cet anti-parlementarisme, il fait floresse. La troisième version, c'est une version qui n'a pas duré très longtemps chez nous en France, mais qui a quand même été dominante d'un point de vue politique dans son influence. C'est celle que nous avons vécue avec le poujadisme ou les anciens de l'Algérie française avec Tixier Viancourt. On doit la sortie de ça aux 30 glorieuses, au fait que les yéyés ont balayé toutes ces angoisses, que le plein emploi a fait qu'en fait que ça a adouci les tentations populistes, et que le général de Gaulle était une incarnation, et qu'à l'époque on avait aussi un débat droite-gauche avec Mitterrand et de Gaulle, donc il y avait une alternative possible, les alternatives existaient. Le problème à l'heure actuelle, c'est la quatrième vague, c'est qu'on a l'impression qu'il n'y a plus d'alternative, et qu'en fait on est dans une crise de démocratie, de la démocratie libérale. Les dernières élections en France sont à ce point très symptomatiques. Le PS et LR ont été balayés, remplacés par la France insoumise, remplacés par RN, et remplacés surtout par En Marche, qui lui a remporté la mise en disant ni droite ni gauche, comme dirait Mitterrand, quand on a ni, ça veut surtout dire à droite. Donc, et pourquoi ? Parce qu'à un moment donné, les citoyens se sont retrouvés avec, semble-t-il, les mêmes politiques, les mêmes analyses, les mêmes solutions, aux solutions au chômage, solutions à la retraite, on allonge l'âge de la retraite, solutions au chômage, on va taper sur les pauvres. Les médias, ils ont aussi un rôle. Quand on écoute France Inter le matin et qu'on n'écoute plus qu'une seule solution, c'est-à-dire la solution de Dominique Seux, et qu'on n'a plus Bernard Maris à côté ou Thomas Piketty pour apporter une contradiction, ça pose un problème médiatique. Où est la pluralité des médias ? Quand on avait une presse écrite, quand on lisait Libération, on était à gauche. Quand on lisait Le Figaro, on était à droite. Ça n'empêchait pas d'avoir des amis à gauche et à droite. Mais on savait que quand on lisait quelque chose, c'était en faveur de notre camp. Aujourd'hui, tout ça a volé en éclats. Vous n'avez plus véritablement de presse de droite et de gauche. On peut être un peu critique, on peut être machin. On a un espèce de mainstream, là, de blue bibulga, de bienveillance, dans un monde qui ne l'est pas. Le monde n'est pas bienveillant. Quand vous êtes au chômage, vous êtes dans une merde noire. Quand vous êtes jeune et que vous cherchez un emploi et que vous n'avez pas de logement, vous êtes dans une merde noire. Et cette merde noire-là, comme dirait Bertolt Brecht, il dit la morale c'est bien, mais d'abord le pain c'est quoi? C'est vivre. Si vous êtes en face de la porte de la sonnerie, levez un peu les yeux, ne regardez pas les quatre mains là, ces espèces de symboles vieillots là. Non, ce qui est intéressant, c'est ce qui a marqué au-dessus de la porte. Les anciens manosquins, ils ont détruit les blasons de la ville parce qu'ils étaient révolutionnaires, et au-dessus ils ont marqué la nation, le roi et la loi, ça c'était en 1789, et ensuite ils ont un peu raclé tout ça, et puis tout en dessous ils ont marqué vivre libre ou mourir. Vivre libre ou mourir, c'était la devise de la République française, de la première. Et voilà. Et ça, c'était, c'est une démocratie. Une démocratie, ça veut dire quoi ? Ça veut dire pouvoir vivre. Ce qui a été oublié par les libéraux, c'est le côté social. Ce qui a été, c'est pas la démocratie libérale. La démocratie libérale chez nous en Europe, c'est une démocratie libérale et sociale. C'est inscrit dans notre République, c'est inscrit dans notre Constitution. Nous sommes une République sociale. Donc, et nous acceptons les partis politiques, les syndicats, la liberté de la presse et la diversité. Ces partis, et les partis, pardon, sont devenus, et c'est pour ça qu'ils ont été balayés, des cours. J'ai entendu Glavany, par exemple, hein, député PS, s'étonner d'avoir été viré après 35 ans de service. Des hommes politiques qui n'arrivent même plus à se rendre compte qu'à 35 ans de service, il y a 35 ans de trop. Alors le paradoxe, c'est que ces mouvements politiques sont arrivés à un moment où on avait une limitation du nombre de mandats en termes de date. Le problème, c'est que quand vous voyez toujours les mêmes personnes, à un moment donné, vous vous dites, il n'y a plus d'autre solution. Et qu'est-ce qui se passe? Les partis populistes, qu'est-ce qu'ils ont? Eh ben, ils offrent quelque chose auxquels ne peuvent pas répondre les partis traditionnalistes. Un parti traditionnaliste, il vous dit, oh, il faut être technicien, il faut savoir, il faut lire les dossiers, il faut lire tout ça, il faut être sérieux, il faut avoir fait Sciences Po, l'ENA, l'ERA, des grandes écoles pour pouvoir diriger une commune, une communauté d'agglomération, un truc de style. Le parti populiste, qu'est-ce qu'il vous dit? Il vous dit non. Tout le monde peut le faire. Et c'est ça la grande différence. Vous en avez un qui joue sur que de l'utopie, et vous en avez un autre qui joue sur du rationnel, sans apporter de l'utopie. Les partis politiques, Parti Socialiste, les Républicains, l'UMP, ce que vous voulez, qu'est-ce qu'ils apportaient avant? Ils apportaient du rêve. Ils apportaient leur forme de rêve. Là, qu'est-ce qu'ils apportent? Que des technos? Ça fait pas envie, hein, techno. Hein, c'est un peu comme si on vous disait, pour faire l'amour, on va prendre le manuel. Hein. Ça marche pas, hein. Bien. Donc, et après, vous avez quand même des histoires cocasses, hein. Fillon, l'histoire Fillon avec Pénélope, tout ça, ça vous bouffe une élection, ça. Faut quand même avoir. Alors après, quand vous avez en plus des défenses incroyables, mais non, c'est pas vrai, c'est encore un complot. Là aussi, hein, on est aussi dans quelque chose qui est grave. Hein. Donc politiquement, on en revient à quoi? Quelque chose de plus grave, quelque chose qui date en fait. C'est bizarre, mais en fait, ça est arrivé avec chez nous en France, c'est arrivé avec Nicolas Sarkozy. C'est cette histoire de revenir à la nation. Alors c'est bizarre de revenir à la nation. Je suis dans un monde globalisé, je regarde ce qui se passe, je suis conscient de ce qui se passe à Bali, je suis conscient de ce qui se passe à Tiananmen, je suis conscient de tout ça et on me renvoie à ma nation. Alors moi j'adore la nation, hein. Moi mon pays j'aime bien mon équipe, j'aime bien mon art de vivre, j'aime tout ça c'est entendu. Mais nous dire que on est français que parce qu'on sait chanter la Marseillaise, ça c'est grave, parce que s'il y avait que ça pour chanter la Marseillaise, à ce moment-là les anciens combattants d'Afrique du Nord qui ont combattu pour nous, on devrait déjà les payer depuis bien longtemps ce qu'on leur doit. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de revenir à un service militaire? On revient à un service militaire, mais je pensais qu'il avait été aboli parce que toute une génération en avait marre de le faire. Et puis là, on nous dit que maintenant, c'est la quintessence de l'éducation. Bizarre aussi que ce soit des libéraux qui nous ramènent ça, alors que par le même moment, ils sacquent les droits sociaux et ils font des économies de bout de chandelle dans les hôpitaux, dans l'école et dans d'autres services qui, eux, rendent justice. Donc, on a aussi ce paradoxe, hein. Je suis avec YouTube et je critique, je vais chez Jiffy, tout ce YouTube, Google, tout ça, là, ils payent pas d'impôts, mais ils sont quand même invités à l'Élysée et au Parlement pour discuter. Alors moi, je sais pas, quand je paye pas mes impôts, je ne suis pas invité au Parlement et à l'Élysée, moi. Et aucun citoyen français ou aucun citoyen de cette planète ne sera invité pour ça. Bizarrement, ça pousse quand même un peu à ce populisme. Quand on parle de problème démocratique, c'est un problème de... Et quelle est la place du citoyen? Quel est son rôle? Si son rôle, ce n'est que de payer des impôts et d'obéir aux lois, mais c'est très limité comme rôle par rapport à ce qu'est normalement un citoyen pour des républicains et pour des démocrates. Un citoyen est un acteur. Il peut pas être acteur tout le temps, mais c'est un acteur conscient de ce qu'il doit faire, de ce qu'il doit rendre à la société. Et là, on a quoi? Tu payes tes taxes, et puis tu obéis aux ordres, et puis voilà, on a pensé pour toi. Et là, je reviendrai dessus. Et cette technicité, et ensuite, vous avez aussi une technicité dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire que vous avez des gens qui disent « Oui, mais bon, il faut connaître tel dossier, tel dossier, tel dossier, tel dossier, avant de faire quoi que ce soit et de décider quoi que ce soit. » Voire même « Ah non, mais moi je suis élu, hein, c'est moi qui décide, hein, vous m'avez élu pendant 6 ans, c'est moi qui décide de tout. Alors ça vous donne des choses assez cosmiques, hein, comme la place du terreau, par exemple, à Manosque. Hein, je vous invite à voir cette réussite urbanistique. Donc, vous avez donc une déclassification du citoyen qui peut donner l'impression de ne plus être entendu. Et là, le discours populiste, il fonctionne. Pourquoi ? Bah parce que si vous avez des hommes politiques qui disent « bah moi, je suis élu, je peux faire ce que je veux pendant les 5 ans ou les 7 ans de mon mandat, et puis toi, il n'y en a rien à comprendre, et toi, il n'y en a qu'une chose à faire, c'est à me réélire la prochaine fois », bah vous n'avez que du populisme en face. Parce que eux, ils sont pas comme ça aussi. Mais ils vous disent, mais regardez comment ils vous considèrent. Donc c'est une considération à double sens.
Agite d'or dans la lumière, celle des phares et du périph'. Une joue contre la terre, une main sur son canif. Qu'un homme dorme sur le bitume, ça n'a pas l'air d'inquiéter les cardinaux en costume, derrière les vitres teintées. Et Sabrina qui se cache et qui espère autre chose pour sa fille, que cet argent qu'elle arrache des mains de ceux qui la déshabillent. Elle augmente le volume pour ne pas savoir qui ils sont. Des cardinaux en costume et des donneurs de leçons. Que vida, que triste, de que país se trata. Del mio no, del mio no se puede. Qué vida, qué triste. Et Mamadou qu'on transfère à l'arrière de l'avion, vers un endroit de la terre qu'il ne connaît que de nom. Léger comme une plume, malheureux comme un enfant. Les cardinaux en costume sur les sièges de devant. Nguyen la clandestine, d'elle on n'a aucune trace. Venue coudre à la machine, celle qui tombe en la remplace. Pour du potage qui fume, c'est payé au rendement. Pour les robes et les costumes des cardinaux impatients. Que vida, que triste, de que país se trata, del mío no. Clandestine et Mamadou qu'on transfère, et Sabrina qui tapine, et ce Magide qui dort par terre. Quand la salle se rallume, le monde.
N'y a-t-il pas une crise de la mondialisation économique ?
Ben c'est évident que l'élection de Trump ou l'élection de Modi ou l'élection de Bolsonaro s'est produit dans un climat économique plus que dégradé. Nous ne sommes plus dans une phase économique croissante pour tous. Le point d'orgue, c'est quand même la crise des subprimes. Nous la vivons encore aujourd'hui. Quand on nous parle d'endettement de pays, par exemple chez nous, il faut pas oublier que nous avons donné plus de 380 milliards donc d'endettement en plus pour sauver un système bancaire qui s'était compromis dans cette crise des subprimes. Cette crise des subprimes, ce qui nous a touchés, nous, Français, Européens, est une crise mondiale. Même les Chinois ont été pris de court et ont vécu un chômage, même si officiellement le Parti communiste chinois dit toujours qu'il n'y a pas de chômage en Chine. Donc le miracle brésilien, lui, s'est effondré avec une baisse des entrées de devises par rapport à un marché de matières premières qui ne faisait plus rentrer suffisamment d'argent dans l'économie brésilienne. Et ça, à un moment où le Brésil, qui était conquérant, qui prenait des parts de marché, notamment en Afrique, organisait les JO de Rio et puis la Coupe du Monde de football, non seulement ils ont perdu la Coupe du Monde face dramatiquement à l'Allemagne, mais en plus de ça, ils se sont retrouvés avec des stades, des villages olympiques merveilleux au milieu, alors que au milieu de zones, il n'y avait ni hôpitaux, ni écoles convenables, avec des manifestations de rue et puis une augmentation de la violence. Quand vous avez la misère et que vous n'avez pas de sécurité sociale, vous avez la violence. Et le Brésil n'avait pas de sécurité sociale, donc la violence. Donc à un moment donné, vous avez l'envie d'avoir un homme fort qui vous débarrasse de cette violence-là. Le miracle indien, lui aussi, n'a pas été assez rapide pour certaines élites classe moyenne indienne. Et donc, Moby s'est servi de ses frustrations que ça n'allait pas suffisamment vite pour faire en sorte d'être réélu par rapport au parti du Congrès. D'autant plus que se greffe dessus une hantise des Indiens d'être submergés par des produits chinois. Et donc la fermeture des frontières aux produits chinois de la part de Moby pour protéger son propre marché. Et quand nous avons Trump qui dit nous allons fermer les frontières ou élever les taxes sur le champagne français, le fromage français ou des produits chinois, dites-vous bien que là nous sommes aussi dans une phase de protectionnisme. Et de protectionnisme qui n'est même pas social, parce que encore on pourrait se dire, on pourrait interdire les produits qui sont fabriqués par des enfants ou des produits qui sont fabriqués par des esclaves. Mais non. Là, il s'agit en fait de prise de position politique et très symbolique. Quant à l'Europe ultralibérale, elle a aussi échoué. Regardons les choses en face. Si la social-démocratie a peut-être échoué, que dire de la société libérale ? Partout, vous avez des montées de nationalisme en Europe qui sont dues à des politiques de rigueur budgétaire qui n'ont pas lieu d'être dans des sociétés qui ont autant de différences sociales que les nôtres. On peut toujours se dire progressiste et vouloir un match progressiste réactionnaire. Je dis seulement une chose, moi, c'est que ça, c'est un jeu très dangereux que nous jouons. Parce qu'un jour, si vous n'avez que ça comme alternative, vous savez, les alternatives, c'est fait pour être testé. Et les gens, ils se disent, pourquoi pas, on va tester. Seulement, nous, dans notre histoire, on a déjà testé. Les Espagnols ont déjà testé aussi, c'est pour ça qu'ils ont voté massivement pour les socialistes et les Portugais aussi. Quant aux Grecs, ayant connu, il n'y a pas si longtemps, les dictatures des colonels, ils n'avaient pas véritablement envie de retourner vers un régime trop dirigiste, en tout cas incarné par un homme. Donc voilà, et n'oubliez pas qu'on est toujours l'extrémiste de l'autre. Donc à ce problème économique de macroéconomie mondiale, il faut aussi voir ce qui se passe dans les pays du Nord. Les pays du Nord qui sont les plus riches, ont des couches de pauvreté incroyables. Je parlais tout à l'heure avec toi, James, sur Noyon, Laon, ces régions que l'on ces départements que l'on connaît bien. Il y a 40 ans, il y avait des usines là. Ces usines sont parties. C'était des femmes et des hommes qui travaillaient dans le textile, dans la chimie, et qui sont partis. dit, alors tant que c'était des femmes, on va dire, je vais parler bizarrement, mais ne voyez pas en moi un espèce de sexisme, hein, mais soyons logiques, hein, tant que c'était des usines textiles où il y avait des femmes, on n'a pas fait beaucoup de manifestations. Hein. Maintenant que ce sont des hommes et des cols blancs qui sont mis en compétition à travers le monde, c'est là maintenant que ça commence à barder. Pourquoi ? Bah parce que quand vous êtes un artisan, quand vous êtes une profession libérale, quand vous êtes une profession culturelle, et qu'on vous dit, ben voilà, tu sais, tu coûtes trop cher, je vais peut-être voir un Indien ou quelqu'un d'autre pour faire le travail pour toi, ben là, vous commencez à vous dire, oh là là, chaud. Ça veut dire que les études, qu'est-ce que je vais faire avec ça, un bac plus 5 ? Qu'est-ce que je vais faire avec tout ça ? Et ça, ça contribue à un déclassement. Un déclassement parce qu'on n'a pas géré ça. On n'a pas dit aux gens que ça allait se passer comme ça. Les partis politiques n'ont pas été là. Alors, ils ont dit, oui, c'est de la faute des immigrés, oui, c'est de la faute, c'est de votre faute, vous n'avez qu'à travailler, essayez de traverser une rue, vous verrez si vous trouvez un boulot. Seulement, le nombre de gens qui essaient de trouver un boulot est énorme. Et du boulot, il n'y en a pas tant que ça. Alors, on nous dit, oui, mais il y a 200 000 emplois qui ne sont pas pourvus. Bah, quels emplois? Pour quel salaire? Pour quelle vie? Je veux dire, on ne se pose pas la question de la vie. On nous demande de travailler de plus en plus longtemps, on est d'accord. Pourquoi pas? Sur le principe, pourquoi pas? Mais qui peut travailler plus longtemps? 67 ans, vous imaginez, vous? Un policier municipal à 67 ans, un enseignant à 67 ans, une infirmière à 67 ans. Bon, tout ça c'est de l'idéologie aussi très libérale et qui n'a rien à voir avec la société. Quant à cette option économique, il faudrait relocaliser une partie de nos entreprises chez nous. Seulement, on a tout un pan qui dit, ben non, on peut pas. Bon, alors, on peut pas. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Alors, si on peut pas, on fait quoi? Donc, là, si on ne trouve pas, si les partis politiques démocratiques, on va dire les libéraux, hein, libéraux, sociaux et compagnie, s'ils ne trouvent pas de réponse à ça dans les prochaines années, c'est certain qu'à un moment donné, on va avoir des partis populistes au pouvoir, y compris en Europe. Il n'y a pas de raison qu'on ne les ait pas. Franchement, arriver sans cravate à une émission radio en disant, voilà, je vais lutter contre le réchauffement climatique, vous êtes dans une usine où vous êtes dans une salle de cours avec des gamins, avec la canicule, pourquoi on fait pas comme en Allemagne où ils ont carrément interdit de travailler lors de canicules, où il y a des aménagements horaires pour les gens qui sont dans les usines pour pouvoir travailler sous les fortes chaleurs? Je veux dire, pourquoi chez nous on peut pas être intelligent? Pourquoi chez nous on est que comme ça? Pourquoi le libéralisme ne marche que dans un sens et pas dans un autre? Non, il faut être honnête. Et puis alors l'autre chose aussi, c'est qu'il faut arrêter de cliver. Ça fait 6 ans qu'on clive. Machiavel disait diviser pour mieux régner. Alors ok, d'accord, on divise les immigrés, les Français de souche, comme s'il n'y avait que des Français de souche, on clive les femmes et les hommes, on clive les petits et les grands, on clive les gros et les maigres, on clive tout le monde est clivé. Et puis comme les clivages sont pas suffisamment opératifs, on invite des gens qui sont clivés à être encore plus clivés. C'est-à-dire que on a des indigènes de la République, on a des gens comme ça qui viennent alimenter ceux qui sont anti-immigration plus dessus. On a tous ces clivages. Et pendant ce temps-là, les véritables responsables de la crise économique, ils sont jamais punis. Vous savez, qui a été puni pour les détournements de Footleaks, des Panama Papers et tout ça ensuite? Qui a été puni là? Personne n'a été puni. Ah si, pardon, il y a Madoff qui est en taule. Voilà, il y en a un. Hein. Les autres, ils sont tous là, ils vous parlent. En plus, ils vous parlent. Hein. Ils vous parlent par l'intermédiaire des gens qu'ils payent pour vous parler le soir ou dans les journaux. Donc le problème, c'est ça, c'est qu'on a un problème démocratique de façon très générale et qu'il va pas falloir se poser des questions, des véritables questions, et puis avoir conscience que l'humanité forme un tout, que la priorité à l'heure actuelle, c'est effectivement de sauver des gens de la misère à travers le monde, et donc être un peu plus fraternel, être un peu plus conscient que ce que je fais ici a quand même une incidence de l'autre côté de la planète, c'est-à-dire revenir à quelque chose de positif au niveau de la mondialisation, quitte même à critiquer certains aspects de la mondialisation. Il est hors de question qu'une marque française ou qu'une entreprise française puisse se faire des bénéfices colossaux en faisant travailler des petits au Bangladesh et puis revenir ici plastronner. Bonjour, je suis une entreprise française digne de ce nom. Non, à un moment donné, il va falloir faire dire non. Puisqu'on a réussi à dire non au 19e siècle contre l'esclavage, pourquoi ne pas dire non contre le travail indigne à travers la planète? Mais seulement à travers la planète. Il faut être plus internationaliste que nous n'avons été, que nous n'avons jamais été. Et quant à la justice, bah, il faudrait être un peu plus juste avec tout le monde. On peut pas dire aux gens, bah voilà, il faut plus fumer parce que ça fait le cancer, et puis autoriser le glyphosate qui lui aussi pose le cancer. Si on est contre le cancer, on est contre le cancer et tous ces pathogènes et tous ces et toutes ces causes dans l'ensemble du monde et pour le monde entier. Parce que si c'est pour nous interdire d'avoir du diesel ici pour exporter notre diesel en Afrique, je vois pas véritablement où est le bénéfice énergétique de tout ça. La mondialisation, c'est pas non plus renverser, déverser notre plastique en Chine. D'ailleurs, je rappelle à ce sujet que la Chine en a marre et nous a renvoyé des barges complètes de plastique parce qu'ils en ont marre de traiter nos déchets. Alors, il faudrait peut-être aussi qu'on ait conscience de ça. C'est-à-dire que le monde ne peut pas être notre poubelle et on ne peut pas continuer à dominer le monde sans lui devoir quelque chose. Nous devons quelque chose au peuple d'Afrique. Nous devons quelque chose au peuple au peuple d'Asie. Nous devons quelque chose à l'ensemble de l'humanité. Et l'Europe devrait normalement, si elle était unie, ça serait beaucoup plus facile que divisée en 28 pays, mais l'Europe devrait être un de ses piliers. Vous pouvez toujours avoir des envies d'être contre Trump et compagnie, mais si vous couchez à chaque fois devant que Trump parle, ou devant Poutine qui parle, ou devant Erdogan qui parle, ou devant ce type de Oumobi, sous prétexte qu'il faut leur vendre des armes, sous prétexte qu'il faut... Ben, à un moment donné, votre échelle de valeur, elle se dilate. Et derrière le libéralisme, on ne voit plus qu'une chose, c'est capitalisme. Or, le libéralisme, c'est autre chose que le capitalisme. Je renvoie ceux qui sont en faveur du libéralisme au texte d'Adam Smith et à l'ensemble des textes d'Adam Smith, et pas seulement à une partie du texte d'Adam Smith. Et puis, pour ceux qui sont un peu plus ouverts d'esprit, je les invite aussi à voir un peu ce que voulait dire le keynésianisme. Parce que là, c'était beaucoup plus rigolo que ce qu'on a à l'heure actuelle. C'est de notre responsabilité en tant qu'humain. Je le répète, le populisme, vous pouvez fustiger quelqu'un de populiste, vous pouvez dire même que c'est un poujadiste, vous pouvez dire des choses de ce type, ça ne sert strictement à rien si jamais un jour les gens qui ont véritablement envie que ça change ne viennent pas avec des idées positives. Vous devez être positif. C'est pas un positivisme béat, vous devez voir l'humanité comme elle est et vous devez faire en sorte qu'elle soit mieux. Et cette humanité qui va mieux, elle venira mieux quand on aura plus le clivage entre populisme et soi-disant progressiste. Parce que si le progrès c'est le recul des droits, je vois pas où est le progrès. Le progrès serait justement que l'ensemble de l'humanité ait les mêmes droits que nous. Seulement c'est à nous aussi de réagir et d'être un peu plus conscients nous avons des droits que n'ont pas la majeure partie de la planète et des habitants de cette planète. Et surtout nous avons, outre nos droits, parce que c'est souvent ce que disent les populistes, nous avons le droit, ok, mais nous avons aussi d'immenses et d'impérieux devoirs. Le premier, c'est d'être fraternel avec n'importe quel homme. Parce que de cette fraternité viendra la clé, les clés des problèmes que nous vivons tous. Que nous soyons blancs, noirs, col blanc, col bleu, que nous soyons des intellectuels ou des ouvriers ou des salariés ou des artisans, nous devons être dans une perspective progressiste, partagé, c'est-à-dire que tout le monde doit recevoir son lot et tout le monde a un devoir. On ne doit plus voir des gens se targuer de payer trop d'impôts. Je paye trop d'impôts et je pars. Bah oui, tu pars et moi je peux pas partir. Donc si j'en paye à ma façon, comment je pars? Alors certains diront oui, monsieur Tizi, vous commencez à devenir populiste là aussi. Le populisme est nourri d'injustice. Il se nourrit d'injustice. C'est ce que disait Jaurès, c'est ce que dit aussi Malraux. C'est de l'injustice. Je vous renvoie vers ce qu'écrivait Malraux sur la Chine des années 30. Je vous renvoie sur les écrits de nos poètes. Et il faut arrêter aussi de se prendre pour ce qu'on n'est pas. Je vais terminer là-dessus, mais... Savoir parler des langues, c'est très bien, mais quand on est président de la République française, on ne s'exprime qu'en français. Sinon, comment voulez-vous que votre peuple vous comprenne, lui qui n'a pas accès à cette langue, comme vous avez eu l'accès à cette langue. Je ne suis pas d'un nationalisme forcené, mais je dis seulement une chose, c'est que notre monde sera bien meilleur avec sa diversité, plutôt qu'unifié dans une nouvelle langue, soi-disant, avec beaucoup d'anglicisme, alors que le fait d'avoir une diversité de langues montre la richesse. Alors c'est vrai qu'il faut rassembler ce qui est éparse, mais il faut aussi accepter l'ensemble de la diversité de notre humanité.
C'était l'émission de Serge Tizi, géopolitique des populismes dans la globalisation, que vous pourrez réécouter sur notre site fréquencemistral.com. Je lance le générique. Au revoir.
Au revoir, chers auditeurs. Et puis, bientôt, passez de belles vacances, puisque nous ne nous verrons pas pendant 2 mois. Nous ne nous écouterons pas pendant 2 mois. Et puis, on reviendra en septembre avec d'autres sujets de géopolitique. Je vous remercie à tous. Je remercie aussi James Fontaine à la technique. Et je remercie Fréquence Mistral pour éveiller les consciences.
Et nous te remercions infiniment, Serge, pour ton éclairage.
Galaxy itself contains 100 billion stars. It's 100,000 light years side to side. It bulges in the middle, 16,000 light years thick. But out by us, it's just 3,000 light years wide. We're 30,000 light years from galactic central point. We go round every 200 million years. And our galaxy is only one of millions of billions in this amazing and expanding universe.
Vous êtes sur Fréquence Mistral.
Accordéon d'hier et d'aujourd'hui, c'est tous les samedis à 10h avec Paul sur Fréquence Mistral. Tous les styles musicaux sont abordés, musette, jazz, folklore, classique, musique.